France Inter.
Je peux, avec une certaine certitude, vous affirmer qu'à la rentrée, nous aurons une baisse visible des prix dans les rayons sur l'inflation alimentaire, septembre. Donc on va revenir à des prix qui doivent redevenir ceux qu'ils étaient pré-inflation. Enregistrés, comme ça vous pourrez le remettre dans quelques mois.
C'était le 30 avril dernier. Sur France Inter, Olivia Grégoire parlait de l'inflation. Après un mois de mars rouge et une hausse incontrôlable du coût des produits vendus en supermarché, la ministre du Commerce imaginait un septembre vert grâce entre autres aux négociations avec les industriels et les grandes surfaces. Près de 4 mois plus tard, l'INSEE considère que le pic, le moment le plus critique, a été dépassé. Mais après une légère baisse en juillet, l'Institut mesure une nouvelle augmentation des prix au mois d'août, liée essentiellement à la hausse du tarif de l'énergie. Au total, sur 2 ans, l'inflation dans le secteur de la grande distribution est supérieure à 21% et les prix ne baissent pas. En haut de la pyramide, les plats cuisinés, le sucre, le maïs enregistrent une hausse de 30%. La dernière étude LSA à Pignot le montre, 3/4 des Français ont désormais du mal à boucler les fins de mois, 85% se disent inquiets, y compris dans les classes moyennes épargnées jusque-là.
On doit changer de mode de vie, donc alors déjà les voyages, on va partir là bientôt, c'est la première fois depuis 5 ans. On aimait bien découvrir des petits restos super sympas, locaux, tout ça, bah non, ça c'est fini aussi. Et puis bah, au quotidien, les petits plaisirs du quotidien, donc voilà, c'est dur de se dire bah, que maintenant on revient un peu en arrière et que ce qu'on pouvait faire, qu'on avait gagné, on l'a plus.
En réaction, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, parle de sujets prioritaires, obtient un accord avec distributeurs et industriels pour bloquer les prix de 5000 produits, mais la crise survient à un moment où les marges budgétaires du gouvernement sont quasi inexistantes. L'exécutif l'a répété à plusieurs reprises, le quoi qu'il en coûte est terminé et les responsables d'associations s'inquiètent. Le Secours Populaire mesure localement des hausses de 20% des demandes d'aide alimentaire.
Pendant le Covid, on avait beaucoup de personnes qui venaient parce qu'ils avaient perdu leur travail. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation, c'est plutôt des gens qui n'arrivent pas à finir leur mois. Ce problème de personnes en précarité, c'est à l'État de le gérer. C'est à l'État de le gérer, c'est pas aux associations.
C'est cet impact des hausses de prix sur la vie des Français que nous avons voulu retracer à travers toutes les générations, les jeunes, les actifs, les retraités. Et c'est chez une étudiante à Clermont-Ferrand que commence cette émission. Inflation, quand le train de vie déraille. Un reportage signé Faustine Calmel. Prise de son, Alexandre James, Jeffrey Marianne et Johanna Gabrick.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Nous sommes à Clermont-Ferrand où nous sommes venus rencontrer Maë. Elle est étudiante en deuxième année de sociologie. On est devant la maison qu'elle habite avec ses 2 colocataires au numéro 27. Maë est boursière et depuis le début de l'année, elle a de plus en plus de mal à boucler ses fins de mois.
Bonjour.
Bonjour. On rentre ?
Oui, je vous laisse rentrer.
Je peux vous emmener directement dans le salon peut-être ?
Allez, on vous suit.
Bonjour.
Et bonjour.
Mon coloc, voilà, enfin l'un de mes colocs, et voilà, Pia.
Enchantée, vous êtes combien ici ?
On est 3-4, ça dépend. Ça dépend des moments. Voilà, donc ça c'est ma chambre avec ma salle de bain et mes toilettes dans la même pièce. La chambre d'un de mes colocs et la deuxième chambre. Eux, ils ont une salle de bain séparée juste ici avec douche et baignoire et des toilettes. Voilà. Et c'est notre petit chez nous avec un petit jardin dehors à l'extérieur. On a la chance d'être à Clermont et du coup de pouvoir avoir accès à un peu de verdure. Donc on en profite. Je m'appelle Maë, j'ai 22 ans. Et je suis étudiante en deuxième année de sociologie à l'université Clermont-Auvergne.
Vous êtes boursière, je crois ?
Oui, je suis boursière échelon 5. Donc ça veut dire que j'ai un peu plus de 400 euros par mois pour pouvoir payer mon loyer, payer ma nourriture, le chauffage, l'électricité. Et à côté de ça, je reçois quand même les appels de la CAF, donc c'est un peu plus d'une centaine d'euros aussi, et c'est globalement par contre mes seuls revenus pour pouvoir tenir donc une année universitaire, plus les vacances où là je reçois pas les bourses, je reçois encore les APL, mais du coup avec 120 euros on fait pas grand chose pendant 2 mois quoi.
Votre loyer ici il est de combien et votre reste à vivre il se chiffre à combien également ?
Le loyer, il est entre 300 euros et 330 euros. Du coup, je rajoute à ça les charges qui sont au moins une cinquantaine d'euros. Ça me fait un peu plus de 200 et encore, c'est quand ça se passe vraiment bien de reste à vivre pour le mois. Avec l'inflation, on fait pas du tout les mêmes courses ici. On est beaucoup plus sur les pâtes, le riz, les pâtes. Je fais des courses, mais je fais en sorte que ce que j'achetais avant pour 2 semaines, bah en fait, ça en fasse maintenant 4. Donc on réduit son alimentation, on mange pas 3 repas par jour, au mieux 2, de temps en temps 1 repas par jour, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de faire beaucoup plus, quoi.
Est-ce que vous avez encore les moyens de vous faire ce qu'on appellerait des petits plaisirs ou ça a disparu ?
Ça dépend ce qu'on entend par petits plaisirs. Quand il y a une friperie ou une vente de livres pour du déstockage, j'en profite et si je trouve un livre à 2-3 euros, je l'achète. Ça me fait plaisir, j'aime beaucoup lire. Mais par contre, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre plaisir à l'extérieur. Je sors pas avec mes amis au bar, par exemple. Si ça pouvait m'arriver avant de temps en temps, maintenant je le fais plus. Ou sinon, c'est que je me fais inviter par mes amis qui veulent me voir à l'extérieur.
Est-ce que ça vous gêne ?
D'être aidée par mes amis quand je sors et quand je vais au bar, oui, énormément. C'est quelque chose que je déteste. Je suis à la fac. Quand on arrive à la fac, on nous dit qu'on est autonome. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mes parents, ils ont pas les moyens de m'aider. Absolument pas. J'ai un petit frère à côté dont il faut s'occuper. Donc, c'est plutôt moi qui les aide quand je peux. Donc, j'aime pas demander de l'argent. J'aime pas qu'on m'en prête. Je préfère en prêter si je peux. Mais c'est hors de question que ça se fasse à l'inverse.
Est-ce qu'on peut faire un petit inventaire de vos placards, parce que vous nous avez parlé de pâtes et de riz.
Oui, c'est possible.
Vous montrez
c'est possible,
comment ça marche dans vos placards oui. Et votre frigo.
On a reste de pâtes, des tomates parce qu'il fait extrêmement chaud et que du coup, bon, on s'autorise à manger des tomates pour ne pas mourir de chaud non plus. Globalement, des fromages et quelques jus de fruits pour le matin, pour pouvoir déjeuner, entre guillemets. Et de la confiture ramenée par les parents de mes colocs, ou ce genre de choses. En fait, une bonne partie des produits, c'est beaucoup de réductions qu'on peut trouver à Leclerc ou à Auchan avec des cartes étudiantes, ou les parents de mes colocs qui pensent à ramener des choses aussi quand ils viennent pour nous nourrir, nous. Donc voilà.
Sans surprise, c'est encore l'escalade pour les produits premier prix. Le record, ce sont les pâtes. Plus 42,5%, l'huile d'olive plus 11% ou encore le sucre plus 7,8%.
En bas, des céréales pour certains de mes colocs qui prennent des petits déjeuners le matin.
Des produits d'entrée de gamme particulièrement touchés par l'inflation.
Mais c'est grosso modo tout ce qu'on a.
Car les matières premières qui flambent constituent l'essentiel du prix.
Vous ne prenez pas de petit déjeuner vous le matin ?
Alors, de temps en temps, je prends un café et si j'ai envie de me faire plaisir le dimanche matin, un petit chocolat chaud, ça fait plaisir aussi. Mais non, je déjeune pas énormément le matin. C'est pas. Et puis si c'est une dépense que je peux enlever, j'en profite.
Alors moi, je m'appelle Lucas. Je suis étudiant en sociologie aussi, mais en troisième année. Et j'habite dans cette coloc depuis 3 ans.
Est-ce que vous faites partie des gens dont parlait Maë qui parfois lui donnent un petit coup de main ?
Oui, j'essaye. Mais elle ne veut pas souvent, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que bon, moi je sais que j'ai un peu plus les moyens, donc je fais plus souvent des courses notamment. Du coup, on compense en fait dans la maison. Moi j'ai le temps et les moyens. Bah, Maë, elle n'a pas le temps ni les moyens, c'est pas grave, on la nourrit et puis elle paye son loyer, c'est déjà pas mal quoi.
Est-ce que vous avez aussi vu cet effet de l'inflation, que ce soit sur vous ou sur vos colocataires ?
Ouais, surtout sur les courses, vu que c'est quand même en grande partie moi qui l'ai fait. C'est vrai qu'avant, pour un panier de 50 balles, ça nous tenait bien 2-3 semaines. Là aujourd'hui, ça nous tient une semaine, c'est pas mal déjà quoi.
Et comment vous gérez ça et les fins de mois du coup ?
Bah, difficilement, on mange des pâtes. Globalement, c'est la solution à tout. Hein.
Maë vit à plusieurs centaines de kilomètres de chez ses parents. Pour s'y rendre, elle doit prendre le train, mais il faut compter une centaine d'euros l'aller simple, impossible à débourser vu son budget. Alors, elle n'a pas vu sa famille depuis Noël.
En fait, je m'enferme un peu toute seule dans mon coin. Et en fait, je trouve que ça joue beaucoup sur mon moral et sur comment je me sens. Et du coup, sur à quel point j'ai la motivation de travailler à l'université. Ça a quand même joué sur mes notes qui ont baissé. Mais parce que quand on n'a pas les moyens de manger vraiment ce qu'on veut, on est plus fatigué, on se sent un peu plus mal. Et c'est ce qui arrive de plus en plus, d'autant plus avec l'inflation. Cette année, j'avais un cours de statistiques où, en fait, notre sujet d'étude, c'était le sport. Donc, il fallait aller voir des matchs de rugby, aller voir des matchs de foot. Ça, quand il fallait le sortir de notre poche, c'était pas possible. Je rends quand même mes devoirs, mais par contre, si t'as pas vu le match de foot sur lequel se porte ton sujet, c'est pas vraiment possible de répondre, quoi.
Est-ce que vous avez essayé de travailler ?
Oui, alors j'ai commencé l'année universitaire en étant vacataire pour la ville de Clermont-Ferrand, en animatrice périscolaire, donc dans une école de maternelle. Et en fait, rien qu'un aller-retour, ça me prenait une heure et demie. On loupe la moitié de la journée, donc la moitié des cours. Donc en fait, c'était pas possible de travailler à côté et continuer à mener mes études correctement. À côté, je suis aussi dans une association. C'était pas possible de mêler les trois à la fin, oui.
Dans le panier, les consommateurs voient déjà certains produits de marque augmenter. La farine, plus 4,4%. Le café de grande marque, plus 2,2%, en raison d'une mauvaise récolte au Brésil. Ou les légumes en conserve, plus 3,8%. Ou encore les steaks hachés surgelés, plus 1,4%. Au total, sur notre panier de 31 produits, 25 augmentent. Un reste stable. Et c'est 5 la baisse. L'inflation est bien installée dans les rayons.
Comment est calculée cette inflation que ressent si fortement Maé au quotidien, en partie grâce aux données fournies par des agents de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. Nous avons rendez-vous avec l'un d'eux, ou plutôt l'une d'elles, dans un hypermarché de la banlieue de Toulouse. Nous suivons Laura Webel, enquêtrice appliquée, chargée de relever les prix de dizaines de produits. Équipée de sa tablette, elle rentre toutes les données dans un logiciel partagé.
Alors, là je vais me présenter à l'accueil, comme d'habitude.
Donc là c'est un hyper.
Là c'est un hyper, oui. En fait on va rentrer avec des micros. C'est de la radio France Inter, mais le directeur est au courant. Je pense que vous avez. D'accord.
Vous interviewez les gens ?
Non, pas du tout. Ils vont me suivre dans la manière dont, pour voir comment je travaille.
On n'interviewe pas les gens.
Là, il est quelle heure ? 10h. 4. Ok. Merci. Alors.
Donc là, tant qu'on y est, on a aussi un casque pour cycliste.
Voilà. Tu vois, sur mon code barre, il est là.
248 pourtant, mais là, son prix a un peu changé. Il a évolué.
Voilà. Votre tablette ouvre une fenêtre voilà, en cas ça, de prix de vente qui augmente.
Voilà, il y a ce qu'on appelle un pop-up qui va s'ouvrir parce que il y avait un prix différent. Là, il a évolué de 16%. Donc, c'est quand même pas négligeable. Vous êtes sûr de ça? Donc, je vais mettre prix vérifié. Je vais bien remettre le prix.
Et ces références, elles changent régulièrement? Vous avez
en fait, il faut qu'on ait un suivi. On essaye de prendre des produits quand on fait un nouveau produit, que ce soit bien vendu, bien suivi. Sauf les fruits et légumes, c'est complètement... Les volatiles, ça reste particulier.
Sous volatiles, vous entendez quoi?
C'est volatile, c'est les fruits et légumes. Voilà. Les fruits et légumes, les produits frais, le poisson, par exemple, c'est des volatiles. Voilà. 9 points. Donc là, je mets son prix. 16,99€. Voilà.
Vous pouvez avoir accès à l'évolution sur un an. Mm-hmm. Vous constatez quoi?
L'évolution la plus importante, moi ce que j'ai vu en tant que c'est sur les fruits et légumes, à un certain moment de l'année. Oui. Et l'huile de tournesol, par exemple, les huiles, le colza, on voit des.
Oui. Des fortes hausses.
Oui, oui, sur des produits que il y a eu une tension. Quoi. Donc là je vais chercher fromage pas pressé, non, c'est la tome noire des Pyrénées qui était en absence temporaire. Cette variété-là, c'est au kilo, 12,90€.
Oui, c'était quand même 3€ de moins l'été dernier.
Alors après, bistec haché. Et oui, je sais déjà qu'il a... Et je vais remettre son prix que j'ai noté pour bien faire comprendre à mon référent là... que je ne me suis pas trompée. C'est bien, bistec haché.
Comme la hausse était plus importante, la petite fenêtre s'est ouverte sur votre
oui,
tablette.
Oui, tout à fait.
Ce steak haché, 17,90€, une hausse de 13%.
Là, maintenant, on va faire les fruits et légumes. Tomate allongée, elle était de France. Oui, donc voilà, le produit qu'il y avait le mois dernier, il est là, avec un prix qui a bougé.
À la baisse, cette fois.
Eh oui, des fois, on a des bonnes surprises.
Combien de références vous suivez comme ça ?
Il y a à peu près une quarantaine de références.
Les données, vous les rentrez dans votre tablette ?
Oui.
Qu'est-ce qu'il en advient ensuite ?
Ah bah après, je transfère, dès que j'ai fini ma tournée, je rentre chez moi, et je transfère les données via Internet, hein, qui arrivent à Montpellier. Et après, il y a ce qu'on appelle un apurement.
Qui consiste en quoi ?
Bah, c'est une relecture, il récupère tout, il regarde, il valide ou ne valide pas, ou il pose des questions, voilà.
Les données que vous avez là, elles sont complétées par d'autres données. Vous nous parliez tout à l'heure de données de caisse, par exemple.
Mm-hmm.
Comment ça
les hypermarchés, les supermarchés, dorénavant, c'est une loi qui est passée, hein, qui a été acceptée, où il y a tout ce qui est les codes-barres, par exemple la boîte de haricots verts, c'est Leclerc qui envoie les données à l'INSEE, chez les hyper et les supermarchés.
Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, par rapport à cette inflation dont on parle beaucoup ces derniers mois ?
Après, nous, c'est notre travail de relever les prix. Après, c'est sûr qu'il y a une augmentation qui a duré pendant quelques mois. Là, on voit que ça commence à se calmer.
Le Tétamarché est ravi de vous proposer de grosses promotions cette semaine pour les boucheries, charcuteries, fruits et légumes. Merci de venir à l'antenne.
Toutes ces données collectées par l'INSEE le montrent, le pic est désormais derrière nous, mais l'inflation reste importante. 6% d'augmentation avant les vacances, 4,3% en juillet, 4,8% en août. Les prix sont très loin de baisser, avec un impact pour les familles qui jusque-là n'avaient pas de problèmes financiers. C'est à Nîmes qu'on retrouve Faustine Calmel, partie faire les courses avec Lauriane, 41 ans. Elle est fonctionnaire et vit en couple avec deux enfants et un budget familial de 4 000 € par mois.
Interception sur France Inter.
Donc là, on va faire les courses.
Alors, on va d'abord acheter tout ce qui est fruits, légumes, primeurs dans une boutique paysanne.
Parce que c'est local et parce que c'est meilleur et que c'est moins cher. Et ensuite, on va chercher le drive commandé. Voilà, et qui est censé me tenir 15 jours.
Censé parce que ça marche pas toujours.
Alors avec une ado et une petite qui mange pas mal, ça marche pas à tous les coups. Donc on arrive à la boutique paysanne. Je sais pas si vous connaissez les boutiques paysannes. C'est des groupements d'agriculteurs qui se rassemblent en fait dans un seul lieu pour proposer leurs produits. C'est direct. Du producteur au consommateur. Parce que je suis très à cheval sur ce que je mange, d'où ça vient, comment ça a été produit et surtout combien sont rémunérés les gens qui produisent ce que je mange.
Et ça reste compatible avec le contexte inflationniste ?
Eh ben alors, grâce à la boutique paysanne, un peu sur les produits frais. Après, pour le reste, j'avoue que je commence à avoir des difficultés. Et c'est vraiment compliqué de rogner là-dessus. Le jeton, d'accord. Allez. On va chercher le caddie, ma puce. Tu montes ou pas dedans? Les poivrons, ok, on va les chercher.
C'est quoi, c'est le prix? C'est,
voilà, oui, pardon. Oui, alors c'est un peu cher. 3,10€ le kilo. C'est pas grave, on fera. J'ai prévu de faire un taboulé, je le ferai sans poivrons. Et sans tomates noires aussi. On va utiliser des tomates normales. Alors, j'avais fait une liste. Hein. Des poivrons, bah c'est foutu. Des tomates, des aubergines et des oignons. J'essaie de prévoir le menu à l'avance hein, pour ne rien perdre hein, du tout. Celle-là, ok, celle-là. Donc là, ce sera un taboulé et puis c'était censé être une ratatouille. Bon, ce sera des légumes sans les poivrons. Hein. Un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on met après ? Des aubergines.
Ok.
Les tomates font 2,65 du kilo, les aubergines 2,70.
Ouais, disons qu'en dessous de 3 euros, ça va. Au-dessus, ça commence à faire cher. Ça dépend pourquoi, hein, bien sûr. Mais bon, ça pèse un peu. Voilà.
Et donc des oignons aussi.
Est-ce qu'il y a des oignons quelque part ? Non, ça va. Les oignons bio sont dans mes prix. Donc on va prendre du bio. On est mercredi et des fois ils font des promos sur la viande hachée le mercredi. Sinon on prend pas de viande. Et ben voilà, super. Il y a le promo du mercredi. Donc je vais prendre des steaks hachés. Bonjour. Je voudrais des steaks hachés s'il vous plaît. 4 s'il vous plaît.
4 steaks hachés, 5 euros.
Voilà, c'est chouette, ça y est pas tout le temps. Ça nous permet de consommer de la viande en fait. Sinon c'est. On a arrêté il y a longtemps.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci de même, au revoir.
Au revoir.
9,57€. Là, le ticket, donc 19,57€, ça correspond à ce à quoi vous attendiez ?
Non, ça me fait. Ah, c'est le lait. Et c'est les tomates. Non, ça fait un peu plus. C'est pour ça que j'ai demandé le ticket. En général, je ne le prends pas. Mais j'avais oublié que j'avais pris 2 litres de lait. Donc, ça colle. Voilà. Ça va.
Dans la foulée, Lauriane file au drive du supermarché voisin. Elle préfère cela au magasin. Pas de risque de déborder de la liste de courses ou de faire des dépenses impromptues. Pour 2 semaines, elle se fixe un budget de 50 euros.
Vous avez des sacs à nous rendre ou pas ?
Tout cela, en fait. Je ne garde pas les sacs. Je vous les repose. Oui, bon, j'ai tout ce qu'il faut.
Je vous les décompte de suite. On a 5. C'est bien ça ?
Je vous fais confiance. Parfait. Merci. Merci de même.
Merci.
Bon, il y avait une promo sur les glaces. Donc voilà, ça va être une super surprise pour les filles. Descends. Ah mais t'as ouvert. Attends, Loulou, bouge pas. Allez, descends.
Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu votre budget familial ?
Alors, on a en moyenne 4000 euros par mois, voilà, pour vivre. Ensuite, bah, là-dessus, il faut bien entendu enlever le crédit et le loyer, environ 1400 euros.
Parce que vous avez 2 résidences, c'est ça ? Vous pouvez nous expliquer un peu votre fonctionnement ?
Voilà, donc on a une maison qu'on a achetée, qu'on a construite il y a une quinzaine d'années. Et moi, pour mon travail, je dois résider à Nîmes ou dans les alentours. Et donc, on a un deuxième logement dans lequel on vit au quotidien. Donc, les filles sont scolarisées à Nîmes et moi, je travaille ici. Donc, voilà, on n'a pas une résidence secondaire, on a 2 logements. Mon mari, lui, passe ses journées dans la maison. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer.
L'inflation et le fait de ne pas avoir eu de hausse de salaire, quel impact ça a sur votre quotidien ?
Ah ben, un impact énorme puisque ben on doit changer de mode de vie. Donc j'ai demandé une mutation que j'ai obtenue. Donc on va réduire à 1 seul lieu de vie. On garde notre villa puisqu'on en est propriétaire hein, et je vais changer de travail. Les filles vont changer d'école. Voilà, donc on change tout. Donc ça a un impact énorme. Ce que je fais actuellement, c'était le boulot de mes rêves.
Voilà. Donc, en effet, le quitter, c'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. Et là, ben, je compte les jours qui me séparent de la fin de ce poste.
Depuis quand est-ce que vous avez le sentiment que c'est devenu vraiment plus difficile au quotidien avec un salaire qui n'a pas augmenté et l'inflation ?
Pendant la période de Covid, on avait beaucoup réduit du fait que c'était plus possible. On avait réduit les sorties, les loisirs, tout ça. Et puis, on languissait la fin de ces restrictions pour pouvoir recommencer. Et puis, à la sortie, on s'est rendu compte que non, on n'avait plus ce budget nécessaire, ce disponible mensuel qui nous permettait de faire autant de loisirs, de voyages, de sorties.
Qu'est-ce que vous ne faites plus ou que vous faites moins ?
Alors déjà, les voyages. Voilà, j'adore ça. Donc, on essayait de partir une ou deux fois par an. Là, on va partir là bientôt. C'est la première fois depuis 5 ans. Les restaurants, on aimait bien découvrir des petits restos super sympas, locaux, tout ça. Non, ça c'est fini aussi. Et puis, au quotidien, les petits plaisirs du quotidien, acheter un petit truc aux filles sympa. On réduit aussi. Elles n'ont qu'une enfance, elles n'auront qu'une adolescence. Et de leur dire, non, alors là, on ne va pas pouvoir faire ça parce que, tu comprends, ce mois-ci, on ne peut pas, parce qu'il y a eu telle autre chose. En fait, le moindre imprévu fait qu'on ne peut plus rien faire.
Est-ce que vous estimez être dans ce qu'on appelle les classes moyennes ?
Oui, mais on descend au fur et à mesure dans la classe moyenne, on trouve. Voilà.
Et ça, vous le vivez comment ?
Pas spécialement bien, c'est dur de revenir sur ce qu'on avait acquis. Donc c'est dur de se dire que maintenant on revient un peu en arrière et que ce qu'on pouvait faire, qu'on avait gagné, on l'a plus.
Face à l'inflation, les institutions aussi se mobilisent. La Banque de France notamment, qui organise ces derniers mois des cafés inflation et des colloques dans plusieurs régions. Objectif, réunir les banques et les entrepreneurs locaux pour tenter d'anticiper et d'absorber autant que possible cette inflation. Nous sommes ce soir à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, où les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie accueillent les rencontres de la politique monétaire de la région Centre-Val de Loire.
Donc nous serons dans cette salle.
Bonjour.
Vous venez pour les rencontres de politique monétaire de la Banque de France ?
Oui.
Oui.
C'est ici. C'est
bref,
ici.
La présentation et la table ronde sur l'inflation.
C'est
ça passe mieux comme ça. D'accord.
Tout à fait.
Merci.
Bonjour.
Je suis Metz.
Metz.
Voilà. Alors, une petite étiquette pour le cocktail. Pour vous identifier. Voilà.
Merci.
Voilà, je vous en prie.
Travaille où le monsieur ?
Metz, c'est une entreprise de peinture, réfection de bâtiments, seconde œuvre, grosse entreprise locale.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais commencer par vous remercier chaleureusement d'être présents ce soir. On va tâcher, on va s'efforcer de vous faire comprendre en quoi ça consiste, la politique monétaire, à quoi ça sert. En quoi c'est important dans la vie du quotidien et surtout quels sont les liens avec l'inflation. Il faut d'une part comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et vous découvrirez même que, à titre individuel, en tant que consommateur, vous avez des réflexes, peut-être inconscients quelquefois, qui font que vous-même vous alimentez l'inflation.
Marie-Agnès de Montbron, directrice régionale de la Banque de France en Centre-Val de Loire.
Bonsoir à tous. Alors je suis ravie de venir ce soir parmi vous. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, alors effectivement, on parle d'inflation, on parle de hausse des prix, et là-dessus, les courbes donnent raison au sentiment et à la perception des Français. Les prix ont monté, et ils sont fortement montés au cours des 2 dernières années. Si vous regardez les courbes du haut, ce sont les prix.
Je suis Marie-Laure Baru-Etherington et je travaille à la Direction générale des statistiques et de l'économie, où j'occupe le poste de directrice générale adjointe.
À la Banque de France.
À la Banque de France. Alors l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, à l'origine, elle est importée. Elle est liée à un double phénomène, celui de la sortie de la crise Covid, avec une demande qui est venue brutalement et les chaînes de production n'étant pas à l'époque complètement opérationnelles, un goulot d'étranglement dans la livraison des biens et des services qui a fait flamber les prix de beaucoup de biens manufacturés et de matières premières. Et puis là-dessus se rajoute la guerre en Ukraine et donc le risque, qui s'est avéré d'ailleurs, d'une hausse des prix de l'énergie et notamment du gaz russe pour l'Europe. À partir du moment où les prix des matières premières augmentent, eh bien les entreprises répercutent cette hausse des coûts dans leurs biens manufacturés. Et puis, à partir du moment où ça se propage aux autres biens et aux biens transformés aussi dans l'alimentation, eh bien le consommateur réalise ou subit cette hausse des prix. Le consommateur qui est accessoirement éventuellement aussi un salarié et qui donc va demander des revendications salariales pour pouvoir arriver à rattraper cette hausse de l'inflation. Donc, ce qui est au départ une inflation, encore une fois, importée, qui concerne quelques matières premières, devient aujourd'hui une inflation qui s'est diffusée à l'ensemble de l'économie. Et c'est bien pour cette raison que les banques centrales ont besoin d'intervenir pour réancrer les anticipations d'inflation autour de leur cible de 2% et puis pour contenir la demande, pour rééquilibrer l'offre et la demande et revenir à une modération des prix, une stabilité des prix, ce qui est dans leur mandat.
Quels sont les leviers dont disposent ces banques centrales et la Banque de France pour essayer de juguler ou limiter cette inflation ?
Le premier outil d'une banque centrale, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire. Pour le dire plus simplement, c'est l'arme ou l'outil des taux d'intérêt, puisque les règles monétaires relient en fait, en quelque sorte, les taux d'intérêt court terme au niveau d'inflation. Donc plus l'inflation est élevée, plus il faut des taux d'intérêt court terme élevés, ce qui va renchérir le coût de refinancement des banques, qui elles-mêmes vont le répercuter en administrant le crédit. Et donc, à partir du moment où vous limitez l'offre de crédit, vous avez un rôle sur l'investissement, sur la production, et donc vous calmez la surchauffe de l'économie, afin que l'offre puisse se rétablir au niveau de la demande.
C'est toujours difficile de faire de la prospective, mais est-ce qu'on anticipe un peu à quoi il faut s'attendre d'ici la fin de l'année, par exemple, ou pour l'année prochaine ?
Nous pensons avoir passé le pic de l'inflation au deuxième trimestre 2023. Et donc, on va avoir un rythme d'inflation qui va baisser avec un retour au niveau de la cible de la Banque centrale d'ici fin 2024, fin 2025. Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Une baisse de l'inflation ne signifie pas une baisse des prix. L'inflation, c'est la hausse des prix. Donc, c'est simplement une hausse moins forte ou plus de hausse des prix. Mais encore une fois, on ne parle pas ici de baisse des prix. Et donc, on va se retrouver, si tout se passe selon la trajectoire que nous anticipons, avec des niveaux de prix qui seront plus élevés que ceux qu'on avait au départ, mais des niveaux de salaire également plus élevés, et donc retrouver un équilibre à partir de l'année 2025.
Il y aura des contrôles,
Bruno Le Maire,
sur les engagements qui sont pris par distributeurs industriels.
31 août 2023.
5000 produits dont les prix ne doivent plus bouger ou bouger à la baisse. Voilà l'engagement qui a été pris. Nous aurons la liste de ces produits. Nous vérifierons que ces produits baissent bien ou n'augmentent pas et que donc le ticket à la caisse diminue ou est stabilisé. Alors, il y a quelques prix qui baissent.
Ouais.
Quelques prix, mais c'est pas beaucoup. C'est l'huile. C'est les pâtes. Et les industriels ont joué le jeu. J'ai cité le groupe Avril, je cite le groupe Barilla. D'autres groupes industriels, simplement, que je veux mentionner, qui, eux, ne jouent pas bien le jeu, qui pourraient faire plus. Je pense à Unilever, je pense à Nestlé, je pense à PepsiCo. C'est des très grandes multinationales qu'on fait un peu, mais pas beaucoup. On leur demande de faire beaucoup.
Ils se fichent de nous,
c'est l'objectif.
Ils gagnent de l'argent sur notre dos.
Je pense qu'ils pourraient faire beaucoup plus que ce qu'ils font. Donc, il était nécessaire de rappeler tout le monde à l'ordre. Et il était nécessaire de conclure un accord global entre industriels et distributeurs, il faut, je le redis, casser cette spirale inflationniste. Nous prenons les grands moyens.
Antoine Metz, entrepreneur de bâtiment, une entreprise créée par mes parents en 1964, entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique sur l'Île-de-France et la région centre.
Et vous avez combien de salariés ?
120.
Quel est l'impact de l'inflation sur votre activité ? Comment ça s'est marqué dans votre entreprise à vous ?
Une pression à deux niveaux. Une, c'est que l'inflation, c'est jointe à la pénurie. Et la pénurie est autrement plus chère que l'inflation. Avoir des matériaux chers, c'est une chose. Ne pas les avoir du tout, c'est encore plus grave. Donc ça nous a mis une pression certaine pour surstocker, pour financer, pour imaginer des solutions. On intègre les hausses des matériaux dans nos prix de revient, donc de facto dans les prix de vente.
Est-ce que ça a eu un impact sur la demande et votre activité de la part de vos clients ?
On a la chance d'être dans une activité de rénovation énergétique où on a une très forte demande, donc il est plus facile d'adapter ses prix dans ces périodes où la demande est forte.
Est-ce que vous avez augmenté les salaires ?
Oui, de l'ordre de 6%, plus les primes dites Macron, plus de la participation pour essayer d'anticiper et d'accompagner nos collaborateurs dans leur vie quotidienne.
Et malgré ça, vous l'évoquiez tout à l'heure, certains font face à des difficultés ?
Oui, inévitablement, puisque la hausse des loyers, la hausse des prix à la pompe, la hausse des prix pour l'habillement, la vue, pour l'alimentation, ces hausses font que certains salariés qui ont des niveaux de salaire jamais suffisants, et évidemment, ont besoin d'un coup de main.
Comment vous leur donnez un coup de main ?
Ah, nous, on a un devoir de solidarité vis-à-vis de nos collaborateurs, donc... On les accompagne dans la légalité en leur faisant des petits prêts personnels.
Est-ce que vos marges ont bougé ? Parce qu'on dit beaucoup aussi dans cette inflation que certaines entreprises ont augmenté leurs marges ou profitent de l'inflation.
Alors l'effet d'aubaine, je pense qu'on ne le voit pas dans les PME françaises. 85% des PME françaises sont des moins de 20. Donc ce ne sont pas ces entreprises-là qui ont dopé leurs marges. Elles ont subi, elles se sont adaptées pour certaines. Mais en aucun cas, on les a vues, c'était des exceptions, on les a vues faire plus de marges grâce à un effet d'aubaine.
L'accord signé cette semaine entre distributeurs et grandes surfaces va limiter les marges et bloquer les prix de près d'un quart des produits vendus en supermarché. Mais le sujet reste socialement explosif, les demandes d'aide alimentaire sont de plus en plus nombreuses. À Magny-en-Vexin, dans le Val-d'Oise, c'est chez Elisabeth, 73 ans, ancienne manutentionnaire, que Faustine Calmel a rendez-vous.
Bonjour madame, comment allez-vous ?
Moyennement. La fatigue, c'est la chaleur, les lombaires.
Vous voulez qu'on vous prenne le sac ?
Je veux bien, merci.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Vous n'avez pas d'ascenseur en plus ?
Non, comme il y a trois étages, c'est obligatoire. Vous entrez.
On vous pose le sac de course.
Oui, dans la cuisine.
On peut aller voir peut-être ce que vous avez ramené de la
oui,
du bus.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a de l'huile, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Hein. Il y a du lait. Il y a une boîte de conserve. Pour la première fois, on a une grosse steak haché. Voilà. Un fromage. Deux yaourts. Et de la moutarde. Pareil, ça c'est sacré la moutarde. C'est très rare.
Aujourd'hui, quel est votre budget et vos charges ?
Ben, mon budget, il est de 900 euros. Et mes charges, ben, il y a le loyer qui est pratiquement 300 euros. Il y a l'eau, l'électricité, les assurances, la mutuelle. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne reste pas grand-chose à la fin du mois. Ben, l'électricité, je fais attention quand je mets des machines à laver... J'attends d'avoir pas mal de linge. Je fais bouillir mon eau pour éviter de mettre une machine à 90 degrés. J'ai des appareils, des cuivapeurs, des choses comme ça. Ben, j'en ai plus d'utilité étant donné que je mange plus de légumes. C'est des choses comme ça, quoi.
Qu'est-ce qui vous a décidé à aller au Solidaribus du Secours Populaire ?
C'est l'assistant social que je vois régulièrement. Et c'est lui qui me l'a dit. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai pas, si vous voulez, j'ai pas à avoir honte. C'est l'État qui devrait avoir honte, hein, qu'on nous oblige à se rabaisser, parce que pour moi, c'est se rabaisser. Aller chercher de la nourriture gratuitement, c'est quand même gênant.
Vous avez des enfants, des petits-enfants qui vivent près d'ici ?
Ah, ils sont tous autour de moi, oui, j'ai mes 6 enfants. Mes petits-enfants, j'en ai 10. Et mes arrière-petits-enfants, j'en ai 5. Mais je ne veux pas faire appel à eux. Ils travaillent dur, tous, ils travaillent très dur. Et donc, je ne veux pas m'imposer. Je sais qu'ils le feraient, mais moi, pour moi-même, je ne le veux pas. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de vivre cette vie.
Vous diriez que ça restreint votre périmètre de vie ?
Ah ben carrément, carrément. À part ma famille, j'ai personne. Je ne pensais pas, à un certain âge, en arriver où je suis. Avant, bon, ben, j'étais mariée, je menais une vie comme tout le monde. On n'avait pas des fortunes, mais bon, on achetait les courses sans compter. Quand je vois maintenant, ben, c'est plus possible.
Vous avez l'espoir que ça aille mieux ?
Non, je ne crois pas. Non. Moi, ça me fait penser à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants. Je me dis, mais comment ils vont faire ? J'ai ma fille qui voulait un deuxième enfant. Je lui ai dit ce que je pensais. Elle y a renoncé. Mais quel avenir ils vont avoir ? Ils n'ont aucun avenir.
Est-ce que vous avez peur que vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, vivent moins bien que ce que vous avez vécu à une époque ?
Je suis née dans les années 50. 60-70, on ne gagnait pas beaucoup, mais on y arrivait bien. Je vois, j'avais 5 enfants à table, ils avaient tous de la viande, mais maintenant, je trouve ça désolant, quoi.
Elisabeth se rend à la distribution du Secours populaire à Magny-en-Vexin. L'association donne chaque jeudi des colis alimentaires à une 50aine de familles de la commune.
Je crois qu'il est préparé. On m'a dit qu'il était déjà préparé.
Ah, il est à l'intérieur aussi, il est déjà préparé.
C'est celui-là ?
Ouais,
il
n'y
a pas grand-chose. Non, bah, là, c'est ça.
Okay. Oui, c'est ça, concernant pas tes lait.
Il n'y a pas de souci.
Tenez.
Merci, bonne journée.
Bruno Conti, secrétaire général de la Fédération du Val-d'Oise, du Secours populaire. Dans l'année 2022, on s'est aperçu qu'il y avait une hausse pratiquement de 20%, qui est équivalent à la hausse du Covid. C'est-à-dire quand le Covid est arrivé, on a eu une hausse de 20% et on retrouve cette hausse de 20% actuellement.
Combien de personnes aidées aujourd'hui sur le département ?
20 000, un peu plus de 20 000.
Est-ce que vous avez vu des profils différents arriver, retraités notamment ?
Retraités, il y en a tout le temps. On doit tourner entre 10 et 13% de retraités sur l'ensemble de nos personnes accompagnées. C'est déjà pas mal. Hein. Je pense qu'ils viennent plus maintenant avec les problèmes d'inflation. Je pense que les 20% d'augmentation qu'on a eu, c'est lié à ça. Pendant le Covid, on avait beaucoup de personnes qui venaient parce qu'ils avaient perdu leur travail. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation. C'est plutôt des gens qui n'arrivent pas à finir leur mois. L'inflation, l'énergie, tout s'accumule pour faire en sorte que, ben, effectivement, ils n'arrivent pas au bout, quoi. Nous, c'est populaire, quand on voit arriver une personne qui vient nous chercher et nous dit « j'ai rien à manger, est-ce que vous pouvez nous aider ?», on l'aide systématiquement. Quelle que soit la personne, on ne se pose pas de questions. On lui donne un colis d'urgence. Ça, c'est la base pour le Secours populaire. Après, si cette personne, elle veut plus d'aide ou un accompagnement un peu plus long, eh ben, effectivement, c'est là qu'on va commencer à l'accueillir. Et l'accueil est important. Là, ils ont la chance d'avoir une salle pour accueillir les personnes, pour les écouter. Dans ces cas-là, nous, on fait ce que font les assistantes sociales. C'est-à-dire qu'ils font un bilan de quelles sont vos ressources, quelles sont vos dépenses, et puis on voit ça. Donc nous, on a un niveau qui nous permet de dire, bah, à partir de tel niveau, on peut aider la personne ou on ne peut pas l'aider. Ce niveau, il est en train de baisser. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de monde qui est en difficulté.
Quand vous dites qu'il est à ce niveau-là, est-ce que c'est quelque chose que vous calculez par rapport au reste à vivre ?
Oui, c'est ça.
Et dans ce cas-là, c'est combien ?
Nous, au Secours populaire, à la Fédération, on considère que le niveau, il est à 7 euros, le reste à vivre.
Mais donc c'est 7 euros par jour ?
Par jour et par personne. Et on s'aperçoit que maintenant, si on veut accueillir tout le monde, on est obligé de le baisser pour permettre à des personnes qui ont, par exemple, 7,5 ou 8 euros, on ne les prendra pas, on ne les prendra plus, parce qu'on n'aura pas assez de produits pour les aider.
Est-ce que ce contexte d'inflation, il vous inquiète ?
Il nous inquiète, nous, même pour notre propre fonctionnement. Parce que nous, on dépend aussi de l'inflation. Quand on a des chambres froides pour garder des produits et puis que l'énergie augmente de 100% ou de 200%, ben, il faut bien le gérer. quand on utilise des camions pour venir dans les zones blanches, on utilise du gasoil. On la prend en pleine face aussi, l'inflation. Il n'y a pas de souci. Hein.
Est-ce que vous avez l'impression de suppléer une défaillance de l'État ?
D'après vous. Bien sûr, ce problème de personnes en précarité, c'est à l'État de le gérer. C'est à l'État de le gérer, c'est pas aux associations. L'État nous utilise pour gérer la précarité, mais il ne fait pas grand-chose. S'il nous donne un peu de sous, on va avoir, peut-être 70 000 euros ou 50 000 euros pour acheter des produits frais, parce que la Première ministre a décidé que les personnes en précarité mangeaient mal, et que les produits qu'on donnait de l'Europe, c'était pas vraiment ça. Donc on va avoir de l'argent pour dire, maintenant, allez-y les associations, achetez des produits frais, et puis donnez-les. Donc ils se donnent bonne conscience, mais normalement c'est à eux de faire ça, c'est pas à nous. Nous, on préférait les aider à les faire sortir de leur précarité en termes de loisirs, en termes de culture, en termes de vacances. Mais la partie alimentaire, c'est quelque chose d'énorme, c'est monstrueux, nous, en termes de gestion, en termes d'organisation, en termes de ressources, alors qu'on pourrait essayer de faire autre chose pour sortir les gens de leur précarité d'une autre façon.
Inflation, quand le train de vie déraille, un reportage signé Faustine Calmel, prise de son Alexandre James, Jeffrey Marianne et Johanna Gabric. Réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier, mixage Manon Houssin. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur franceinter.fr.